de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour cette dernière semaine de rediffusion estivale. Nous vous proposons de réinterroger notre futur, forcément numérique, mais aussi robotique et créatif. Jusqu'où ira la création numérique ? Pourquoi y a-t-il tant de drones dans l'air ? Ce sont des chercheurs visionnaires qui nous font partager leurs pistes de réflexion et leurs interrogations sur notre avenir commun à inventer ensemble, ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour Lionel Choprade.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes pilote de ligne et officier de réserve de l'armée de terre. C'est en suivant les premières expérimentations de drones tactiques que vous vous êtes passionné depuis une dizaine d'années pour le sujet. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage très complet qui nous a aidé à préparer cette émission, Les drones aériens aux éditions CEPADUES. Qu'est-ce que c'est qu'un drone, Lionel Choprade ? Un drone aérien, c'est pas seulement un avion sans pilote, hein ?
Non, pas seulement. Alors, juste une précision, ce n'était pas les premières expériences de drones tactiques. Elles remontent à plus longtemps.
On va y venir, ça fait longtemps voilà. Qu'il y a des drones.
Donc, le terme drone, qu'est-ce qu'un drone aérien ? Le terme drone, c'est l'ensemble, il désigne l'ensemble des moyens aériens autonomes et en principe inhabités. J'y reviendrai tout à l'heure. Il existe aussi, il faut le dire, des drones terrestres, qui sont en fait finalement des robots, des drones maritimes qui peuvent être de surface ou sous-marins. Mais en fait, dans l'actualité, on parle beaucoup plus des drones aériens.
Nous sommes également en duplex depuis France Bleu Toulouse avec le roboticien Simon Lacroix. Bonjour Simon.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur en robotique au laboratoire LAS du CNRS à Toulouse. Vous travaillez à la conception des drones de demain. Quelle serait votre définition à vous du drone, des robots volants ?
Alors, elle est en fait assez proche de celle de mon confrère Lionel Choprade, si ce n'est que je restreindrais le terme drone au système qui vole. Étymologiquement, d'ailleurs, un drone en anglais, c'est un bourdon. Hein. Donc oui. C'est un petit peu après par abus de langage qu'on parle de drone terrestre. Je préfère le terme robot qui est un peu plus générique et restreindre le terme drone aux éléments qui volent, sans pilote ou au moins sans pilote à bord.
Sans pilote à bord, autonome, intelligent et de toute taille, on peut rajouter ça.
Oh oui, alors toute taille, on aura l'occasion d'en parler, on parle de micro, de nanodrones, oui. Et puis après il y a des drones qui ont la taille d'un avion commercial comme un petit Airbus. Hein.
Autour de la question, pourquoi tant de drones dans l'air ? On commence par quelques pistes de réflexion sonore avec le mix furtif, tactique et chronologique de Guillaume Ploquin.
Alors les drones, vous savez, les tout premiers sont apparus il y a une soixantaine d'années, mais évidemment, au fil du temps, ils sont devenus de plus en plus performants.
Les militaires de toutes les époques, l'une de leurs principales préoccupations, c'est savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline.
Les premiers prototypes de drones datent des années 50, mais leur utilisation massive a commencé avec la guerre du Golfe en 1991.
Quand on entend le bruit des drones, on a peur. On ne peut plus travailler, aller à l'école ou jouer.
Le drone Rainbow 4 développé par la Chine a effectué son premier vol test.
Ce qui m'inquiète le plus avec les drones n'est pas tellement quand l'homme a une place dans le circuit, mais plutôt les futurs projets d'autonomie.
Alors des drones, il en existe de toutes les tailles, du mini-hélicoptère de loisirs qu'on a pu avoir pour Noël jusqu'au immense lanceur de missiles américain.
Malgré les controverses que l'utilisation des drones suscite parfois, leur vente explose. Israël est le premier pays exportateur au monde de ces avions télécommandés.
Nous, justement, donc, on a développé un drone avec une caméra thermique. C'est un outil pour les chercheurs.
Aujourd'hui, sur un gros drone qui va permettre de faire des images de très bonne qualité, les chaînes de télé s'en servent de manière très, très régulière.
Le vol des centrales nucléaires d'EDF, puis l'Elysée, puis l'île Longue, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup.
Ce drone a un pilote très spécial, la commissaire européenne au transport. Elle va proposer une directive pour encadrer l'utilisation en Europe de ces appareils volants.
On a longtemps pensé qu'il était possible d'assimiler le drone à un robot terrestre qui volait. On s'est vite aperçu que dans l'espace aérien, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent.
Alors il y a plein de choses qui se passent dans l'espace aérien et il y a de plus en plus de drones dans l'air, Lionel Choprade. Mais leur histoire, comme on vient de l'entendre, elle ne date pas d'hier, malgré ce qu'on croit souvent.
Non, elle ne date pas d'hier. Je voulais juste revenir sur la définition, parce que un drone aérien, c'est donc un aéronef, donc Simon Lacroix préfère qu'on parle d'aéronef, et c'est vrai, inhabité, télépiloté, ça c'est important, on reviendra sur la notion de télépilote, parce que pour le moment, l'absence de pilote qu'on suggère est fausse.
Oui, il y a un pilote, mais il est pas dedans. Hein.
Voilà,
ça n'est pas dans le drone.
Voilà. Capable d'emporter différentes charges utiles. La notion de charge utile est importante pour effectuer des tâches spécifiques qui peuvent être civiles ou militaires et très très variées. Effectivement, le si on revient sur l'aspect historique, le terme bourdon en anglais est important puisque en fait ça viendrait apparemment de soldats anglais qui auraient surnommé les drones de cette façon, mais dans les années 30. Donc on voit que ça date pas d'hier.
Et c'est même encore plus vieux que ça. Hein. Vous disiez qu'au fond les
alors l'idée de drone est très ancienne puisqu'on peut dire qu'elle naît avec l'aviation. Et on peut faire le parallèle entre le physicien serbe Nikola Tesla qui expose dans une revue scientifique américaine en 1898 le premier concept de drone volant, alors qu'en 97 Clément Ader tente de faire voler l'avion numéro 3.
Alors les drones
donc on est vraiment aux prémices de l'aviation et déjà on parle d'automatisation des drones.
Donc on parle tout de suite d'automatisation des drones, mais en même temps c'est quoi? C'est dans la Seconde Guerre mondiale que les drones sont rentrés en action, si on peut le dire.
Bien, en fait, assez rapidement, pendant la Première Guerre mondiale, il y a différents essais. Hein, il faut dire qu'il fallait trois choses, en gros, pour qu'on puisse faire des drones. Il fallait maîtriser l'aspect inertiel, c'est-à-dire pouvoir assurer la stabilité d'un engin dans l'espace. Hein, donc l'invention du gyroscope par Foucault au 19e, et puis développé par Sperry, l'américain Sperry, qui va, dès la fin de la Première Guerre mondiale, développer les premiers horizons artificiels et les premiers gyroscopes appliqués à l'aviation. La télécommande.
Voilà. Et oui, vous disiez bien qu'ils sont pilotés, ces avions quand même.
Les travaux de Branly, etc., donc au début du XXe siècle, vont y contribuer, Branly, Marconi. Et puis, on a la télécommande, la navigation inertielle et la liaison...
Dans votre livre hein, sur les drones aériens, Lionel Chopin, on voit une photo de Marilyn Monroe qui travaille à fabriquer un drone. Donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale.
Alors c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais là on est aux États-Unis évidemment et au sein de la société Radioplane, donc qui a été fondée dès les années 30 par Reginald Denny, qui était un personnage très intéressant aux multiples talents et qui a d'abord fait des engins de loisirs et a compris que il y avait un marché pour des drones cibles, parce qu'en fait les premiers drones militaires sont des cibles qui servent à entraîner les tireurs
D'abord, ce sont des cibles. Voilà. Ensuite, on comprend bien l'intérêt pour les militaires. Mais on va faire un petit peu vite et on va arriver à aujourd'hui où il y a une explosion des drones, à la fois militaires et civils. Simon Lacroix, cette explosion des drones qui sont plus seulement militaires, c'est quoi? C'est lié aux évolutions technologiques, aux avancées de la robotique, des technologies de l'information?
C'est lié à tout ça, exactement. Donc effectivement, cette explosion des drones, c'est une convergence d'avancées technologiques qu'on voit en fait au quotidien. Par exemple, le développement des téléphones portables a beaucoup contribué à l'apparition de drones, parce qu'à l'intérieur de ces téléphones, on a maintenant des tout petits processeurs qui consomment très peu d'énergie, on a des caméras, on a des petits capteurs inertiels qui pèsent à peine quelques grammes, et c'est avec ces technologies-là qu'aujourd'hui, à très bas coût, parce que ce sont des technologies qui sont vraiment répandues de par le monde, on peut faire ou avoir des drones pour quelques centaines, voire moins d'euros. Donc c'est assez clairement une convergence d'évolution technologique sur le stockage de l'énergie, sur ce qu'on appelle les algorithmes de commande, les algorithmes qui vont stabiliser le drone, et sur les différents capteurs, que ce soit les caméras, les capteurs inertiels. Donc c'est une convergence d'évolution de ces technologies qui ont fait que depuis, c'est difficile à dater le développement exponentiel des drones, mais depuis 5 à 8 ans, on entend de plus en plus parler de drones, et y compris près de chez nous.
Autour de la question pourquoi les drones sont dans l'air, nous voilà donc dans la drone zone avec Siouxsie sur RFI.
Day to day, day in, day out, hum. drum, drones on to and fro, and so it goes hum, drum, drones on, buzz, buzzing, busy bees, consume the dreams and mouse shopping schemes, buzz, buzzing, oh, look at their eyes, they're mesmerized in the drone. Of all pale and gray, biding a time at the end of a line, where cast adrift on the doldrum shift, buzz buzzing is far away. As we wait to be blown clear away, buzz buzzing we wait alone to make a break from the drone.
Avec succès sur RFI, en compagnie du pilote Lionel Choprade, auteur des drones aériens, et du roboticien Simon Lacroix, en duplex depuis les studios de France Bleu à Toulouse. Pourquoi tant de drones dans l'air et jusqu'où nous entraîneront-ils? C'est tout le sens de la question que vous pose Mathieu Novak du mensuel Science et Avenir.
Il y a quelques semaines, il y a eu le premier ravitaillement en vol d'un drone militaire, ce qui veut dire qu'on peut maintenant envoyer très très loin un drone militaire. Est-ce que la prochaine guerre aérienne sera sans pilote?
Votre réponse, Lionel Choprade?
A priori, totalement non, mais avec un rôle très important des drones, c'est probable.
Ce drone militaire, donc ravitaillé en vol, ce qui veut dire qu'il peut voler très très loin.
Oui, alors il s'agit du X-47B, qui est un drone américain embarqué, qui fait partie d'un programme de démonstrateur, mais qui en réalité est presque quasiment opérationnel, qui a déjà démontré une capacité à décoller et à atterrir sur un porte-avions, et à présent donc à être ravitaillé en vol.
Donc il peut faire d'extrêmement longues distances.
Exactement. Et il semble en fait qu'il corresponde à un concept, à un repositionnement de américain en termes d'ennemis génériques. Donc qui se serait repositionné depuis les guerres de l'après 11 septembre, qui sont des conflits asymétriques, vers un conflit et un concept qui s'appelle RC Battle, de guerre du Pacifique, avec évidemment pour ennemi potentiel, on parle bien de potentiel, la Chine. Voilà.
Les Chinois qui eux aussi fabriquent des drones militaires.
C'est assez amusant parce que dès qu'un produit américain, enfin si on peut dire, dès qu'un produit américain apparaît sur le marché, on prend n'importe quel segment de drone américain, et bien à chaque fois il y a un projet qui vole véritablement ou non, c'est pas toujours chinois qui apparaît.
Voilà. Les drones nous entraînent sur un terrain évidemment géopolitique, militaire. Alors on parle de drones furtifs, tactiques, c'est quoi la différence?
Alors si on parle de drones tactiques, il s'agit de niveau d'emploi, du niveau tactique, c'est-à-dire restreint au niveau du champ de bataille. Un drone tactique, c'est un drone qui va intéresser une brigade, c'est-à-dire 3-4 régiments, surtout pour acquérir de renseignements.
Du renseignement.
Voilà,
oui.
Exploiter à court terme. Alors des drones moyenne altitude, longue endurance, mâles comme le Predator dont vous avez sûrement entendu parler, ou le Reaper dont on parle pas mal, qui sont des drones à présent armés, qui étaient des drones de renseignement au départ, mais à présent armés, qui envoient des bombes, qui délasèrent, etc. Donc ces drones peuvent intervenir au niveau tactique, mais ils sont plutôt dédiés au niveau opératif, c'est-à-dire au niveau d'un théâtre d'opération. Et ils ont beaucoup fait parler d'eux à propos des éliminations ciblées de terroristes dans les guerres de l'après 11 septembre.
Et il y a aussi les Israéliens qui sont sur ce marché des drones.
Oui, d'ailleurs, c'est assez. Les Israéliens on trouve beaucoup de synergies entre certaines familles de drones israéliens au départ, qui après ont été développés par les Américains. Par exemple, Hunter, il y a quelques années, il y a toujours eu des échanges. Alors aujourd'hui, clairement, le pays qui est le plus présent, peut-être pas en termes d'exportation, mais de capacité en termes de drones, c'est les États-Unis, puisque c'est le seul qui détient l'ensemble de la palette des drones militaires. Depuis des tout petits drones, depuis des mini drones,
des nanodrones,
jusqu'au Global Hawk, un drone je pense que c'est à lui que faisait allusion Simon Lacroix, fait l'envergure d'un Boeing 737 et peuvent rester en l'air plus de 30 heures.
Simon Lacroix, dans vos recherches, que vous avez travaillé aussi sur ces drones militaires ou ces drones armés?
Alors, je travaille au CNRS où on fait a priori des recherches, disons, plus fondamentales sur les aspects technologiques pour atteindre plus d'autonomie, par exemple. Et pas directement sur la fonction que va exécuter le drone. Bon, ceci dit, il nous arrive de travailler avec des financements du ministère de la Défense français, mais vraiment, on s'intéresse à des fonctions techniques. On s'intéresse pas à la fonction opérationnelle du point de vue militaire.
Et par exemple, à quelle fonction technique vous vous intéressez?
Eh bien, nous, on est un petit peu, notre objectif, c'est qu'il y ait de moins en moins de pilotes à bord d'engins volants ou même d'engins mobiles d'une manière générale. Donc, je voudrais itérer un tout petit peu là-dessus. Lionel a répondu, et à juste titre, à mon avis, hein, on est loin de voir les ciels de bataille exempts d'avions pilotés. Alors, je suis pas un expert de la chose militaire, hein, mais il est quand même évident que le sens de l'histoire est que de moins en moins d'hommes sont exposés aux dangers, notamment, disons les puissances technologiques, hein, et que d'énormes efforts sont faits pour enlever l'homme des zones dangereuses et donc ne plus mettre des pilotes dans des avions qui vont prendre des risques. Aujourd'hui, je crois que aux États-Unis, on forme plus de pilotes de drones, c'est-à-dire c'est en fait des gens qui ne quitteront même pas les États-Unis, hein, qui sont dans une station de contrôle dans le Colorado, par exemple. On forme plus de pilotes de drones que de vrais pilotes d'avions qui manipulent la manche et qui pilotent comme les pilotes légendaires, quoi.
Lionel Chopin.
Oui, c'est en fait en 2012, je crois que c'est en 2012 que ça a basculé, le nombre de pilotes de drones a été supérieur en formation, hein, sur une année. Il y a encore beaucoup plus de pilotes d'avions militaires que de pilotes de drones, mais en termes de formation, eh bien
ce sont des
télépilotes qui ont été les plus nombreux à être formés aux États-Unis, en même temps que des escadrons de pilotes qui volaient sur F-16, par exemple, sur chasseurs, ont été, entre guillemets, démontés pour devenir des pilotes de drones. Donc, ils en étaient fort malheureux, d'ailleurs, le plus souvent.
Mais en même temps, oui, c'est ça, télépilote, on comprend bien l'intérêt militaire, évidemment, le moins de personnel humain sur place.
Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Simon. En fait, on dédie le drone à tout ce qui est, en fait, dangereux, ennuyeux et sale. C'est dangerous, dull and dirty.
Ça, c'est pour le drone, c'est pour le bourdon autour de la question pourquoi tant de drones dans l'air. On se retrouve, si vous le voulez bien, juste après le flash d'info pour continuer de survoler les nombreuses questions soulevées par tous ces robots volants, pas toujours parfaitement identifiés. On y revient dans 3 minutes. À tout de suite.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Caroline Lachowski. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Pourquoi tant de drones dans l'air ?» en compagnie du pilote Lionel Choprade, auteur des drones aériens aux éditions CEPADUES, et du roboticien Simon Lacroix du LAS, laboratoire de recherche CNRS en robotique, qui est en duplex depuis les studios de France Bleu à Toulouse. Nous interrogeons sur tous ces drones qui ont envahi notre espace aérien, survolant même parfois des zones très sensibles. Retour sur la chronique défense d'Olivier Four sur RFI le 8 mars dernier.
Une soixantaine de survols de drones depuis 5 mois et un constat, si ces appareils n'ont jamais eu d'attitude hostile, les autorités ont bien du mal à stopper ces vols. Écoutez ce qu'en disait récemment le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Denis Mercier.
Le type de drone que l'on constate aujourd'hui ne présente pas de menace très directe. Pour autant, nous avons une inquiétude parce que c'est un type de menace nouveau qu'il nous faut prendre en compte.
Problème, ces drones ne mesurent que quelques dizaines de centimètres. Ils sont entièrement conçus en matière plastique et volent à des altitudes allant de 50 à 100 mètres seulement. Leur détection nécessite donc l'adaptation des radars existants. En revanche, ils font un bruit très particulier. L'ONERA étudie donc la signature acoustique de ces drones et pense qu'un réseau de capteurs implanté autour d'une zone à protéger pourrait permettre de donner l'alerte. Optique, radar et acoustique, la combinaison des trois techniques devrait permettre une localisation et une identification efficace.
Comment localiser et identifier ces drones? La multiplication des survols de zones sensibles en France a soulevé de nombreuses interrogations, Lionel Choprade.
Oui, effectivement, ça a commencé à la fin 2014, vers octobre 2014, avec les survols de centrales qui sont, je crois qu'il y a eu à peu près 17 centrales nucléaires de se survoler. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est sont-ils dangereux pour les centrales? A priori, ils ont des tailles qui sont des capacités d'emport très faibles. Et donc, en termes de charge explosive, le danger, comme le disait le général Mercier, est très faible en réalité. Par contre, ils peuvent
espionner,
fournir du renseignement, identifier des faiblesses. Et il y en a dans les centrales. Il y a des choses qui sont en dehors de l'enceinte bétonnée.
Et donc, oui, ce sont les drones espions.
Voilà, il y a eu un survol de l'Elysée au début de 15 janvier 2015, je crois. Également, on pense à des menaces vis-à-vis des aéroports. Également, ça peut être dangereux au niveau des aéroports.
Comment est-ce qu'on peut faire pour les repérer, ces drones? Ils sont par essence furtifs et tactiques. On entendait dans cette chronique d'Olivier Four parler d'optique, de radar, d'acoustique aussi, avec le son. Simon Lacroix, repérer des drones, c'est possible?
Bien, justement, la difficulté que posent ces petits drones, qui sont globalement des jouets, hein, qu'on peut vraiment acheter au supermarché du coin pour la plupart, c'est qu'ils sont tout petits et donc pas faciles du tout à détecter. Les moyens qu'on a de surveillance de l'espace aérien sont plutôt dédiés à des avions pilotés, donc qui pèsent forcément au moins une demi-tonne, par exemple. Et donc, ça a été très bien présenté dans le reportage, hein. C'est un problème. Aujourd'hui, on n'a pas de moyens techniques qui permettent d'assurer que le drone ne survolera pas telle zone, parce qu'on nous permet d'assurer qu'on va le détecter et qu'il pénétrera dans la zone. C'est avec des micros, des radars, des caméras, un peu des caméras thermiques aussi, c'est-à-dire quand même des petits moteurs qui chauffent un petit peu.
Qu'on peut arriver à les repérer.
C'est un petit challenge technologique, c'est pas insurmontable.
Et vous dites aussi qu'il y a une multiplication, hein, des drones civils, qu'on peut en acheter dans le commerce, il y a des drones qui sont des jouets aujourd'hui. Est-ce que n'importe qui peut acheter un drone et se mettre à le piloter?
Ah oui, bien sûr. Alors oui, vraiment. Alors je ne vais pas citer de nom de marque commerciale, mais vraiment, c'est pour moins de 300 €. Je crois que les moins chers aujourd'hui, c'est 150 €. Donc c'est des petits drones qui vont peser 500 g. Dès qu'il y a un peu de vent, ils ne peuvent pas voler parce qu'ils sont trop petits. Ils voleraient comme une feuille morte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, n'importe qui peut les piloter. Et si je reviens 10-15 ans en arrière, où il y avait déjà plein de gens qui font de l'aéromodélisme, mais piloter un aéromodèle, c'est-à-dire qui n'est pas un drone, ça demande un apprentissage. Or, les drones maintenant arrivent avec une électronique de commande qui fait qu'on les pilote avec un smartphone. Hein, on peut même voir directement, s'ils ont embarqué une caméra, ce que les drones voient et piloter en tournant son téléphone. Vraiment accessible.
Voilà, et voilà pourquoi aussi, ils sont non seulement accessibles, mais ils sont aussi partout. C'est-à-dire que dans les journaux télévisés, toutes les images maintenant sont faites avec des drones. Il y a bientôt un festival ciné-drone, hein, pour les films de cinéma réalisés avec des drones. Ils sont absolument partout, ils sont à la mode et ils servent à tous les usages. Et aussi, on y reviendra, ils servent à la recherche scientifique, bien sûr.
Oui, alors Dieu merci, les drones ne sont pas que militaires. Dans l'évolution des technologies, hein, comme la plupart des technologies, c'est essentiellement dans le domaine de la défense que les grandes évolutions se font. Mais dans les applications civiles, il y a énormément d'applications civiles ou scientifiques, dans les applications civiles, par exemple, pour inspecter des ouvrages d'art, inspecter un barrage, inspecter un viaduc très élevé, c'est beaucoup plus facile de faire voler un drone pour acquérir des images que de descendre un alpiniste ou monter un échafaudage. Et pour la recherche scientifique, donc les scientifiques étant curieux par nature, ils veulent voir tout, partout, tout le temps. Et donc, les archéologues s'intéressent aux drones, parce qu'on peut survoler des sites archéologiques à très basse altitude, et donc repérer des indices de bâtiments, des choses comme ça. Les gens qui font des sciences de l'atmosphère, donc les gens qui travaillent à Météo France, par exemple.
Pour aller dans les nuages beaucoup,
pour aller dans les nuages, par exemple, ou dans les tornades. Donc en ce moment, c'est un peu la fin de la saison des tornades en Amérique du Nord, par exemple, mais depuis quelques années, il y a des laboratoires qui s'amusent, entre guillemets, hein, à envoyer des drones dans les tornades. Bon, c'est souvent avec pertes et fracas, hein, mais pour aller mesurer, pour essayer de comprendre ces phénomènes un petit peu mieux.
En même temps, on peut se demander justement comment est-ce qu'on fait avec tous ces drones dans l'air, parce qu'il y en a de plus en plus pour tous les usages, sans parler des militaires, sans parler même des drones espions, mais quand même il y en a, les drones jouets, les drones de recherche scientifique, les drones des médias, c'est une explosion de drones.
Alors, oui, et d'où un besoin de réglementation. Alors, en France, on a une réglementation depuis maintenant 3 ans, hein, 3 ans et demi.
2012, première réglementation.
Voilà, oui, c'est ça,
avril, première réglementation. Avril 2012, oui.
Et il est clair que ça pose quand même des problèmes réglementaires, et puis au-delà aussi des problèmes techniques. Hein. Donc en gros, la réglementation consiste à ségréguer, c'est-à-dire qu'on va dire les drones ne vont pas dépasser telle altitude, des drones de tel volume ou telle taille ne vont pas avoir le droit de voler au-dessus de zones urbaines, les drones de tel volume ne pourront pas voler plus loin qu'une certaine distance du télépilote qui reste au sol, et en gros, on essaie d'éviter de cloisonner l'aviation pilotée, l'aviation civile et les drones. Il est évident que dans un futur pas très lointain, des drones partageront l'espace des avions pilotés. Et là, il y a beaucoup de problèmes qui sont pas uniquement réglementaires, hein, des problèmes techniques. Je pense, sans vouloir se projeter très très loin dans le futur, mais dans des aéroports, on verra atterrir aussi bien des drones sans pilote ou avec télépilote, plus ou moins distant, et 3 minutes après, un avion piloté.
Comment on fera et comment faire avec tant de drones dans l'air? Je propose d'écouter l'éclairage de Claude Le Talec. Il est chargé de mission au système de drones à l'ONERA, donc l'Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. Il a d'ailleurs aussi préfacé votre livre, Lionel Chaprade, sur les drones aériens.
On travaille surtout sur la partie introduction des drones dans le système aérien. On a longtemps pensé qu'il était possible d'assimiler le drone à un robot terrestre qui volait. Et on s'est vite aperçu que dans l'espace aérien, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent et que les drones ne pouvaient pas entrer impunément dans ce système aéronautique et qu'il fallait les modifier, les rendre plus sûrs, les équiper de capteurs, etc. Donc moi, je travaille plutôt sur cet aspect. Que faut-il faire pour que les drones soient compatibles avec tout ce qui existe déjà dans l'espace aérien? Les petits avions, les gros avions, la structure de l'espace aérien, etc. Donc nous, on est plutôt, pour ce qui concerne les drones, dans un travail qui consiste à rendre les drones sûrs, c'est-à-dire que le pilote ne perd jamais le contrôle, que le drone ne tombe pas, qu'éventuellement s'il tombe, il ne soit pas dangereux avec certains artifices. Donc là, c'est le travail de l'ONERA. Mais faire respecter la loi, ça n'est plus nous, ça n'en fait partie de nos compétences.
Mais en même temps, je pense que pour l'ONERA, ça a dû être, enfin je veux dire, c'est quand même un changement de paramètres et de paradigme, que justement tous ces drones dans l'espace aérien, enfin ça oblige aussi à se poser tout un tas de questions qui ne se posaient plus quand il n'y avait que des avions.
Et pas seulement pour l'ONERA, lorsque vous regardez la déclaration, la communication qui a été faite par la Commission européenne en avril 2014, son titre c'était « Une nouvelle ère de l'aviation ». Et aux États-Unis, on a la même appréhension. Ces avions, ces engins automatiques, aéronautiques, ce sont des machines qui ont changé totalement de façon de voir les choses. Vous avez vu à la télévision les belles images qu'on nous propose.
Grâce au drone.
La vision, grâce au drone. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement fantastique et dont il faut maîtriser le développement. Parce qu'il y a une possibilité technique, technologique, qu'il faut pour autant complètement oublier l'autre partie. Du problème, si je puis dire, c'est les nuisances causées par ces drones et les dangers posés par ces drones.
Nuisances, dangers potentiels, les questions sont nombreuses hein, par rapport aux drones. Est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère de l'aviation, Lionel Chaprade?
Je pense que oui. Alors, pas pour l'aviation de transport dans l'immédiat, puisque l'OACI ne prévoit pas de transport de passagers dans un avenir prévisible.
Sans pilote.
Sans pilote.
Vous nous rassurez quand même.
Voilà. et c'est pas moi qui
vous êtes vous-même pilote contre cet avis.
Néanmoins, en fait, les drones sont très complémentaires des avions et dans certains cas, au niveau des tâches dévolues, des tâches civiles qu'on peut classer dans le travail aérien, ils commencent à prendre une part très importante. La photo aérienne, c'était effectué auparavant, ça l'est toujours un peu, mais de moins en moins par des hélicoptères qui sont beaucoup plus coûteux, par des avions légers.
Mais aujourd'hui, c'est fait par les drones.
De plus en plus, la surveillance de gazoducs. La surveillance de lignes électriques, par exemple, aux tensions d'EDF, qui était faite par des hélicoptères, sera faite de plus en plus par des drones.
Est-ce qu'on peut dire de même que la recherche militaire sur les drones a amené les drones à envahir au fond l'espace civil? Est-ce qu'on peut dire que ces drones vont effectivement avoir un retour sur l'aviation avec pilote? Et est-ce que ça influence?
Alors, il y a eu assez récemment des articles assez intéressants sur la sûreté aéronautique, la protection des aéroports par des drones. De la part de Naudin, par exemple, qui est un spécialiste de la sûreté, donc des aspects protection dans l'aéronautique. Un aéroport, c'est une surface absolument gigantesque et le protéger, c'est pas évident.
Ce serait des drones qui pourraient le protéger.
Voilà, par exemple, ou inspecter. Donc Simon Lacroix parlait d'inspection d'ouvrages d'art. Eh bien, EasyJet vient de se proposer d'inspecter ces avions avec des drones, ce qui prend beaucoup moins de temps, évite d'avoir à porter des plateformes importantes à côté, parce que c'est très haut, un empennage d'avion, par exemple.
Mais ce qui veut dire maintenant, ça cohabite,
c'est tellement en fait plus facile, ça cohabitera. Après, là, on est au sol, en fait. On parle de petits drones. Après, la circulation aérienne des drones, c'est un autre problème. Mais c'est à la limite moins un problème quand on est en espace aérien contrôlé, c'est-à-dire que tous les aéronefs sont contrôlés. Quand on est dans des espaces aériens où tous les aéronefs ne sont pas connus, ce qui est quand même une partie importante de l'espace aérien dans les basses couches. On est censé appliquer une règle qui s'appelle voir à éviter et que ne peuvent pas appliquer les drones.
Ils peuvent pas voir ou éviter, ou alors faut leur apprendre. Il faut que les chercheurs, comme Simon Lacroix, leur apprennent à voir et éviter.
Il y a des recherches, il y a un programme qui s'appelle MIDCAS.
Aujourd'hui, Simon Lacroix, ils peuvent voir et éviter les drones?
Oui, des drones de laboratoire, oui, tout à fait. Et à terme, alors je peux pas être précis dans les prédictions, mais la fonction dite voir éviter, ou sense and avoid, comme on dit en anglais, va être embarquée de plus en plus à bord des drones.
Je suis d'accord, en fait. Il y a eu le cas du SAGEM Patroller qui a déjà cette capacité, enfin, qu'il a démontré.
De pouvoir voir et éviter. Alors vous-même, Simon Lacroix, vous travaillez donc au LAS à Toulouse. Sur quoi? Sur des essaims de drones? C'est comme ça qu'on dit, plusieurs drones ensemble?
Alors oui, une des tendances, c'est avec quelques principes tels que l'union fait la force, par exemple, si on veut cartographier une zone de montagne ou si on veut rechercher des victimes après un tremblement de terre, au lieu de déployer un drone, on peut en déployer 5, 10, 15, voire plus.
Mais qui collaborent entre eux, enfin qui.
Voilà, l'intérêt évidemment, donc c'est non seulement c'est pas de multiplier les drones dans le ciel, c'est de développer des synergies, c'est-à-dire d'espérer qu'avec deux drones, on ait plus que deux fois le résultat d'un seul drone. Et donc là, les drones collaborent entre eux, ils se communiquent des informations, un tel vol à haute altitude a détecté tel événement, peut-être, au niveau du sol, et un second drone qui vole à plus basse altitude va le confirmer parce qu'il a une vision plus claire, plus précise des choses.
Mais ensuite, il faut que toutes ces informations, évidemment, elles reviennent sur Terre, alors non seulement au pilote du drone qui est sur Terre, mais que pour la collecte, qu'elle soit vraiment efficace des informations, que les données recueillies soient sécurisées, toutes ces questions-là, vous devez les prendre en compte aussi.
Alors, en fait, non, moi personnellement pas trop. Donc effectivement, il y a des aspects liés à la sécurité et sécurisation des données, notamment par exemple s'il y a toujours un lien entre un pilote au sol et un drone, mais ce lien est a priori piratable, même si on fait des communications cryptées, des choses comme ça. Donc peut-être un des moyens les plus sûrs, c'est de couper ce lien. C'est-à-dire que le pilote, au moment du décollage du drone, lui donne une mission. Par exemple, on va chercher tels éléments dans telle surface, et hop, le drone fait son travail et s'adapte un petit peu automatiquement. S'il y a des reliefs non prévus, il les voit, il les évite. S'il y a éventuellement des aéronefs non prévus, il les voit, il les évite. Et là, il n'y a pas de problème de sécurité. Si le drone n'émet rien, a priori...
Mais on le récupère après, c'est quand il revient qu'on récupère
ses données. Voilà.
On se rend compte que les questions sont multiples, innombrables. Enfin, quand on tire le fil du drone, c'est sans fin.
Oui, puis on pourrait. Alors, elles sont multiples, innombrables, mais en fait assez générales. Quand on parlait d'insertion des drones dans l'espace aérien, il va se passer la même chose avec les voitures autonomes dans nos villes. et dans nos et sur nos routes de campagne, les voitures autonomes qui vraiment pointent le bout de leur nez, hein. On les voit aujourd'hui dans les laboratoires, elles commencent, leurs compteurs commencent à totaliser des centaines de milliers de kilomètres. Donc c'est encore des systèmes expérimentaux, mais ces voitures autonomes, c'est-à-dire où dans lesquelles on monte dedans, il y aura même plus de volant, hein, et on tapote sur une tablette, bon ben amène-moi à la maison, amène-moi chez mon ami, et ben elles vont partager la route avec des voitures pilotées. Les pilotes de voitures n'ont pas reçu autant de formation que les pilotes d'avion, donc ça sera peut-être même encore un petit peu plus compliqué.
Ben, c'est presque encore pire. Autour de la question, pourquoi tant de drones dans l'air, puisqu'on n'en est heureusement pas encore à tant de voitures autopilotées sur nos routes, on écoute Philippe Catherine sur RFI, 8e ciel. Avec Philippe Catherine sur RFI, en compagnie de nos invités, le pilote Lionel Choprade, auteur des drones aériens, et le roboticien Simon Lacroix en duplex depuis Toulouse. Autour de la question pourquoi tant de drones dans l'air, les drones, on l'a dit, sont aussi devenus des outils pour la recherche scientifique dans de nombreux domaines. Je propose d'écouter l'éclairage de l'écologue Olivier Dangle, qui était hier notre invité et qui dirige l'Institut de recherche IRD à Quito, en Équateur.
Les drones peuvent être des outils en fait pour les chercheurs, notamment nous dans les Andes, dans les paysages agricoles andins. Une des variables très importantes, un des paramètres à mesurer qui est très important, c'est la température, parce qu'effectivement ça guide la croissance des plantes, mais aussi ça contrôle les ravageurs de cultures qui font des dégâts dans ces systèmes et qui sont donc des problèmes pour les populations humaines qui vivent dans ces pentes. Alors c'est valable dans les Andes, mais c'est valable en Afrique, partout. Et donc, comme on n'arrivait pas à mesurer cette température au niveau local, vraiment, parce qu'on est en train de parler d'insectes et qui mesurent quelques millimètres, il nous faut des mesures très précises de l'endroit où ils vivent, du climat où ils vivent. Avant, on mettait des stations climatiques un petit peu dans l'air et puis on disait, voilà, là c'est la température de l'air et du coup tout le monde vit à la même température. Mais c'est pas vrai, les insectes vivent sur des feuilles, ils vivent dans des racines, ils vivent. Et donc il faut avoir des mesures extrêmement précises de ces températures, mais à la fois il faut avoir ces mesures sur une étendue relativement grande. Donc comment avoir les deux ? Ben nous justement, donc il y a 2 ans maintenant, on a mis en place, on a développé un drone avec une caméra thermique, donc une caméra qui permet de mesurer la température. Et donc on fait passer le drone à environ 60-70 mètres au-dessus des champs, sur de grandes distances, et ça nous permet de mesurer la température à une échelle de 5 cm. Donc le pixel de notre caméra fait 5 cm, ça veut dire que sur des étendues et des étendues de champs, on arrive à avoir une carte thermique, donc des températures de ces champs à une échelle de 5 cm, qui est l'échelle qui nous intéresse pour comprendre comment les insectes vivent, et aussi dans un contexte de changement climatique. On parle souvent de plus 2 degrés ou plus 4 degrés, ça ce sont des températures moyennes, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'échelle, véritablement, des organismes qui vivent ces changements, comme les insectes, les moustiques, les vecteurs de maladies, etc. Il nous faut des mesures, des moyens de mesurer ça, et les drones, pour nous, c'est un outil qui peut nous faire avancer.
donc outil formidable avec une incroyable précision des caméras de ces drones pour mesurer notamment pour la recherche scientifique. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller dans l'imagination, dans l'invention de drones utiles à la recherche scientifique, Simon Lacroix?
Je serais pas difficilement vous dire jusqu'où on peut aller, mais en tout cas les possibilités sont énormes. Et donc, c'est le témoignage qu'on vient d'entendre est vraiment exemplaire. Hein. Pour avoir des informations sur des grandes surfaces, mais néanmoins des informations précises, le mieux c'est d'utiliser un drone. Donc c'est le cas aussi où on pourrait aussi étudier des biosystèmes dans la canopée amazonienne, on pourrait étudier des populations de mammifères dans des parcs sans pour autant les perturber. Donc, l'espace des possibles est très très grand. Et il faut voir qu'il n'y a pas que la vision aussi comme capteur que l'on peut embarquer. Hein. Donc, il y a ce qu'on appelle la vision thermique, ce à quoi faisait référence mon collègue en Équateur, qui permettent de mesurer la température. Et il y a aussi, je veux pas rentrer dans des détails techniques, mais il y a des choses qu'on appelle par exemple la vision hyperspectrale.
Qu'est-ce que c'est?
C'est des caméras couleurs avec beaucoup plus que trois couleurs. Nos yeux, à nous, sont capables de percevoir trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu. Certains animaux en perçoivent quatre ou cinq. Et en fait, physiquement, il y a beaucoup plus que quatre ou cinq couleurs. Et percevoir toutes ces dimensions de couleurs permet, par exemple, d'identifier très précisément l'état de la végétation qu'on est en train de survoler. Et là, j'en profite pour passer sur une petite application civile qui vraiment est en train de se développer. Et c'est sans aucun doute dans ce contexte applicatif qu'on va voir le plus de drones, c'est l'agriculture.
Pour l'agriculture.
Hein, alors aussi là, dans tous les pays du monde, hein, on aimerait maintenant être capable de mettre de l'eau, de l'irrigation que là où c'est vraiment nécessaire, de mettre de l'engrais si on veut en mettre que là où c'est vraiment nécessaire, ou de faire des traitements sanitaires que là où c'est nécessaire. Donc il faut observer les champs. Et il n'y a rien de mieux pour observer les champs que des drones. Donc la culture de telles céréales, le blé, l'orge ou le maïs, le sorgho, je ne sais quoi, on ferait voler des drones à plusieurs étapes, après le semis par exemple pour détecter les mauvaises herbes, à mi-étape de leur vie pour voir s'il n'y a pas des zones qui ont besoin d'être irriguées. Et ça, c'est aujourd'hui une technologie qui est disponible et qui est en plein développement.
En plein développement. Un de nos auditeurs à Madagascar demandait, mais pourquoi est-ce que, au fond, on miniaturise toujours de plus en plus les drones? Parce qu'on peut se dire qu'au fond, quel est l'intérêt de la miniaturisation? Vous avez des pistes, vous, Simon? J'ai demandé à Lionel aussi.
Je pense que quand on cherche à miniaturiser, c'est surtout soit parce qu'on veut pas être vu. Donc on veut que un drone, des plus petits drones que j'ai vus font 7 grammes, hein. Bon, ils volent pas longtemps. Donc c'est pas beaucoup plus gros qu'une libellule, hein. Donc c'est encore plus difficile à percevoir que les drones jouets qui font 800 grammes qu'on peut acheter aujourd'hui. Un des autres intérêts de la miniaturisation, et ça aussi c'est encore les applications des drones, c'est de pouvoir par exemple pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment en ruine. Hein, ou un robot terrestre aurait du mal parce que
c'est des zones complètement inaccessibles.
Des zones complètement inaccessibles, pénétrées par des circuits d'aération, ça s'intéresse beaucoup les militaires. Donc pour pouvoir pénétrer dans un bâtiment, donc plus on est petit, plus c'est facile de pénétrer par exemple.
Mais aussi peut-être pour des secours. Enfin là c'est pour les militaires, mais ça pourrait aussi être pour des secours.
Alors quand on est miniature, de toute façon la seule chose qu'on peut faire c'est quand même observer, c'est acquérir de l'information. Hein. Un drone miniature pourra jamais apporter une bouteille d'eau par exemple. Hein, donc mais pour les fonctions d'observation, on peut avoir intérêt à miniaturiser.
Miniaturisation. Aussi pour le côté militaire, pour les drones aériens que vous avez étudiés, Léa Choprade.
L'aspect pour les raisons exposées, effectivement, pour des recherches de discrétion en milieu urbain, par exemple, les différentes forces armées ont développé des drones. Je prends par exemple Black Hornet, qui est un petit hélicoptère qui tient entre deux doigts, qui est utilisé par l'armée britannique, qui fait 8 cm de long, 2 cm de large, et il peut aller voir ce qui se passe derrière un mur ou dans une
hélicoptère. On n'est pas encore au nanodrone, voilà. Quand même, mais on y viendra.
Le terme nanodrone, il me paraît un peu abusif, puisque
c'est mini-drone.
En nanotechnologie, je dirais un drone très petit. Voilà, donc au départ c'est parti, il y a eu un programme de la DARPA aux États-Unis, donc qui est l'institution qui gère les programmes militaires dans les années 95 et 97 pour faire des micro-air véhicules, et c'est quelques centimètres. Alors il y a des drones aussi étonnants, il y a eu des drones de recherche, il y a l'entomoptère de l'université de Harvard.
Il est comment celui-là?
30 mm, 60 milligrammes, c'est un petit insecte.
Ah, parce c'est que, un petit insecte
alors,
qui tient dans la main.
Ce qui est amusant, c'est que sur ces nanodrones, on explore des solutions aérodynamiques étonnantes qui se rapprochent des insectes avec du vol battu, des très différentes des solutions aérodynamiques habituelles.
Ça permet d'explorer. On peut tout imaginer. On va terminer là-dessus. On pourrait tout imaginer pour les drones les plus petits possibles, qui imitent la nature ou pas.
Ben je pense quand on regarde le monocoptère Samarai, c'est inspiré de ces graines qui, vous savez, ont une aile et qui tombent en tournoyant.
Et voilà,
c'est un petit drone, ça tient dans la main.
Inspiré des végétaux.
Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait un peu frémir et beaucoup rêver. Merci Simon Lacroix d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Toulouse, avec le soutien technique de Patrice Lecomte, que l'on remercie également. Merci Lionel Choprade, merci à vous d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle le titre de votre livre de référence, Les drones aériens aux éditions CEPA d'US, avis aux amateurs.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
C'est la fin de cette semaine de rediffusion estivale. Nous vous donnons rendez-vous en direct avec Guillaume Ploquin à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, lundi dans le Cosmos. C'est le titre du dernier opus du philosophe Michel Onfray, autour de la question pourquoi une philosophie du cosmos. Piste de réponse à découvrir ensemble lundi, je serai ravie de vous retrouver. Amis auditeurs libres et curieux, très bonne fin de semaine à tous. Surtout, gardez l'esprit ouvert. Dans quelques instants, vous retrouvez les informations sur la Radio Mondiale.
Contactez autour de la question @rfi.fr.